grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi-quotidienne de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, nous revoilà à bord de l'Optimiste pour une nouvelle semaine de navigation dans l'actualité locale. Ce soir, notre première escale, c'est avec Jeanne Rosier. Elle nous vient de l'association La Mangouste Électrique qui organise un stage d'initiation à la houppe danse le 7 mai à Angers, au PAD. On part ensuite à Beaujois-Vallée avec un nouvel épisode de la série Pensée locale. Cette fois-ci, c'est la radio RPSFM qui a l'air la rencontre d'une plateforme de commerce en ligne pour soutenir l'économie de proximité. Et enfin, je sais que c'est une période de partiel pour beaucoup d'étudiantes et étudiants, mais aussi si vous bouclez un projet au travail ou tout simplement si vous ressentez de la fatigue mentale, eh bien la capsule positive d'aujourd'hui est faite pour vous. Nous allons l'écouter ensemble en fin d'émission. Tout est prêt alors pour quitter le port. Bon vent à nous! Notre première escale est donc avec l'association La Mangouste Électrique qui est consacrée à la pratique de la houppe danse. C'est Sophie qui a interviewé Jeanne Rosier, professeure et performeuse de hula hoop et de houppe danse à l'occasion d'un atelier de découverte qui se tiendra ce samedi 7 mai au PAD à Angers. On l'écoute ensemble tout de suite.
Le hula hoop, c'est peut-être pour vous un lointain souvenir d'enfance. Pourtant, ça pourrait bien être votre nouvelle passion. Un sport pour travailler vos abdos, mais aussi vous lâcher et exprimer votre fibre artistique. Je suis aujourd'hui accompagnée de Jeanne Rosier, professeure et performeuse de hula hoop et de hoop dance au sein de l'association mayonnaise La Mangouste Électrique. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous proposez samedi 7 mai au PAD à Angers un stage découverte adulte et ado pour transmettre votre passion aux Angevins. Mais alors, d'où est-ce qu'elle vient cette passion ?
Alors, ça fait quelques années que je pratique le hula hoop et la hoop dance. Ça fait à peu près 5 ans et ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard. Ça remonte à l'époque où je suis arrivée en Mayenne, en arrivant de Nantes. Et j'avais amené avec moi le cerceau que j'avais enfant, voilà, qui accompagnait les récréations à l'école primaire. Et peu de temps après être arrivée en Mayenne, je suis allée à une convention de jonglage, donc c'est-à-dire un regroupement de personnes qui pratiquent les balles, les massues, les bolasses et plein d'autres agrès. Et j'ai rencontré une personne qui faisait de la hoop dance et qui m'a montré en une demi-heure plusieurs mouvements débutants, plusieurs mouvements de base. Et j'ai tout de suite adoré le hula hoop et le bien-être et le mouvement que ça apportait. Et ensuite, pendant près d'un an, j'en ai fait presque tous les jours, je pense. J'allais au parc avec mon cerceau, je mettais de la musique et puis j'essayais plein de choses. Et j'ai découvert plein de mouvements comme ça. Et ensuite, en regardant un petit peu sur Internet, j'ai découvert qu'en fait, il y avait une vraie communauté en France, mais en fait dans le monde entier, qui avait énormément de contenu sur Internet, de tutos et des gens qui se regroupaient. Et donc, petit à petit, la pratique s'est étoffée comme ça.
Vous êtes aujourd'hui performeuse et professeure en hoop dance, on l'a dit. Quel a été votre parcours dans cette discipline sportive et artistique, peut-être côté formation, spectacle aussi ?
Alors oui, ça commence. Donc en fait, pendant 5 ans, c'est resté vraiment une pratique personnelle, en fait, pour mon bien-être et un loisir, finalement. Et l'année dernière, j'ai eu envie de changer de voie professionnelle. Je travaillais avant dans l'environnement et j'ai quitté le travail que j'avais à ce moment-là avec l'envie de faire déjà quelque chose de différent et puis aussi quelque chose qui ramènerait un petit peu plus de joie dans ma vie et dans la vie des gens, et puis qui me permettrait d'être dans quelque chose aussi un peu plus social, en fait, avec plus d'interactions. Voilà les envies que j'avais. Et un petit peu par hasard, encore une fois, il y a une professeure anglaise qui s'appelle Jo Mandy qui menait à ce moment-là une formation en ligne qui accompagnait à devenir professeur de hula hoop. Donc c'était une formation qui durait 2 mois. On avait des réunions Zoom régulièrement. Et en fait, ça accompagnait à vraiment réfléchir à pourquoi est-ce qu'on faisait de la hoop dance, qu'est-ce que ça nous apportait, pourquoi est-ce qu'on avait envie de le partager et sous quelle forme. C'était vraiment une formation qui était bien construite et on était une trentaine de personnes tout autour du globe à faire cette formation-là en même temps. Et je crois je me demande si on ne s'est pas toutes lancées ensuite pour donner des cours de hula hoop et hoop dance. Donc cette formation-là, c'était il y a bientôt un an pour moi, c'était en mai et juin 2021. Et donc depuis, il y a eu pas mal de chemins parcourus et j'ai créé une association qui s'appelle donc la Mangouste Électrique, qui est basée près de Mayenne en Mayenne. Et par ce biais-là, j'ai commencé il y a quelques mois à donner des cours et puis aussi à réaliser quelques performances. Les performances, ça reste pour l'instant assez minoritaire par rapport aux actions que je mène, mais ça me paraît important aussi parce que en fait, ça permet aux gens de découvrir à quoi ça ressemble la hoop dance en fait. Souvent, les gens ont l'image de la cour de récré avec le cerceau autour de la taille. Beaucoup pensent que c'est une pratique qui reste assez enfantine, un jeu, sans avoir idée de la variété de mouvements qui existent et du fait que la hoop dance, ça se retrouve vraiment à la croisée des chemins entre la danse, l'expression corporelle, on peut avoir du mime, on peut avoir du clown. C'est vraiment un objet qui permet de s'exprimer, on est vraiment dans l'expression corporelle. Et donc du coup, le fait de réaliser des performances, tout comme des vidéos un petit peu sur les réseaux sociaux, etc., c'est pour donner une image de à quoi ça peut ressembler, le hula hoop et la hoop dance, et quels sont les attraits qu'on peut y trouver, qu'est-ce qu'on peut y trouver.
On va revenir un peu après sur la diversité des figures, mais avant ça, j'ai beaucoup entendu dans ce que vous avez dit, vous parlez d'expression de joie. Dans cette pratique de la danse corporelle, on peut voir aussi une idée peut-être de réappropriation du corps, de confiance en soi.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose dont on se rend compte quand on commence à pratiquer, mais c'est vraiment une pratique qui a de nombreux bénéfices, tant physiques que psychologiques. Si on parle des apports physiques du hula hoop, on va travailler le souffle, la souplesse, la coordination. Il y a beaucoup de mouvements croisés, gauche-droite, etc. La rythmique également. Et puis même musculairement, en fait, quand on s'essaye au hula hoop à la taille, on voit que les abdos sont bien engagés. C'est vraiment quelque chose qui va contribuer au renforcement musculaire. Et finalement, pour moi, cet apport physique, c'est même pas ce qui est le plus intéressant, mais c'est vraiment, comme vous disiez, tous les apports qu'il va y avoir sur le lâcher prise, l'expression de la créativité. Il y a une reconnexion au corps. En fait, on va à la fois être dans une reconnexion entre la tête et le corps, quand on explore des mouvements, se dire « Ah tiens, si je le lance comme ça et que je fais tel mouvement avec mon autre bras, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, réussir à être vraiment dans la connexion au corps. Et en même temps, il y a une déconnexion, à mon avis, parce qu'on est tellement concentré et dans le moment présent qu'en fait, on laisse de côté la charge mentale qu'on peut avoir en tant qu'adulte au quotidien. Et du coup, c'est vraiment une pratique qui, pour moi, est très relaxante, qui aide à se recentrer, à oublier les petits tracas qu'on peut avoir ou tout ce qu'on peut avoir à faire dans la vie quotidienne, pour passer un moment avec soi dans lequel on va se défouler, où on va avoir des idées et qui finalement va être assez joyeux. En fait, ça peut aussi être quelque chose d'assez drôle et ludique. On peut se reconnecter à son enfant intérieur. En fait, en tant qu'adulte, on joue plus beaucoup. On peut ne plus jouer beaucoup et là, en pratiquant le hula hoop, on peut retrouver ce côté pas prise de tête en fait, où juste on va rigoler avec un objet en plastique et ça va nous faire du bien.
Donc on l'a dit, il y a plein de figures. On parle bien sûr, on voit bien sûr le cerceau qui tourne autour de la taille, mais il n'y a pas que ça. On parle de figures on body lorsque le cerceau tourne autour du corps, des genoux, des bras, du cou, mais aussi de figures off body pour dire figures à l'extérieur du corps. C'est un terme un peu plus énigmatique. On pense évidemment au lancer, mais quelles sont les autres figures du off body?
Alors c'est assez riche. Donc effectivement, il y a des mouvements où on va venir lancer le cerceau. On va aussi avoir des rolls, donc quand le cerceau va venir rouler sur une partie du corps, par exemple sur le dos, sur les bras tendus, enfin, il y a vraiment plein de choses. Il va y avoir des coin flips, c'est beaucoup de termes anglais, hein, où le cerceau va venir tourner, un peu comme quand une pièce de monnaie tombe, et il va venir faire comme une sphère ou un globe autour d'une partie du corps. On va avoir des wraps, donc c'est quand on va venir enrouler le cerceau autour du corps, mais d'une autre manière. Voilà, des lancers. On peut aussi avoir de la jongle avec plusieurs cerceaux. Et puis aussi beaucoup de petits mouvements de transition qui vont venir, agrémenter la danse. Pas des mouvements ou des figures compliquées, mais des fois juste voilà, le fait d'avoir le cerceau en main et puis de le tourner d'une manière et de le remettre à sa place, bah, ça va venir agrémenter, être un nouveau mouvement de danse. Et du coup, on va avoir beaucoup de mouvements simples comme ça, mais qui vont venir embellir la pratique.
C'est une pratique qui se construit aussi beaucoup autour de la beauté du geste, du mouvement. C'est là qu'on voit toute la créativité. Parce que pour vous, cette créativité, elle s'exprime plus par l'improvisation ou alors plus par vraiment créer une chorégraphie, penser avec la musique peut-être.
Mais il y a vraiment plusieurs écoles, ou en tout cas juste des histoires de préférences personnelles. Moi, j'ai appris juste en improvisant finalement et en cherchant un flow, comme on l'appelle, donc une sorte de lâcher prise psychologique et de juste être dans le moment présent et voir qu'est-ce qui s'enchaîne sans trop réfléchir en fait. Ça, c'est l'essentiel de ma pratique. Mais il y a aussi plein de gens qui vont réaliser des chorégraphies et c'est aussi vraiment intéressant d'en imaginer et ou d'apprendre des chorégraphies que proposent d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, si jamais on est sur Instagram ou sur Facebook. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont proposer des chorégraphies et c'est aussi un très bon exercice de les apprendre parce que ça donne plein d'autres idées de transition à telle personne. Après ce mouvement-là, elle va faire tel autre. Je n'y aurais pas pensé. Ce n'est pas quelque chose que je faisais jusqu'à maintenant. Et du coup, ça ouvre aussi le champ des possibilités en venant donner plus d'idées. Donc, je pense que c'est intéressant de jongler entre les deux, finalement. Des fois, quand on n'est que dans le flow, dans l'improvisation, on peut se retrouver dans une routine et avoir un peu moins d'idées. Et donc, à ce moment-là, de basculer sur les chorégraphies qu'ont fait d'autres personnes ou d'en inventer, ça permet de venir relancer les dés et redonner des idées.
Et qu'est-ce qui vous guide dans vous, votre pratique de l'improvisation ? Est-ce que c'est la musique ou ces idées, comment elles viennent en fait ?
Pour moi, c'est vraiment la musique. Et d'ailleurs, depuis quelques années, en fait, pour moi, ce qui va faire une bonne chanson, c'est est-ce que je m'imagine danser dessus ? C'est vraiment ça qui va venir jouer dans mon choix de chanson ces derniers temps. Et voilà, du coup, ça va vraiment être la musique. Et après, je n'ai pas de style particulier. Ça peut aller du classique au rap, à la pop, au reggae. C'est vraiment des histoires de moments. Et du coup, je vais juste mettre une chanson et voir ce qui se passe. Et si, en plus, j'arrive à faire coller les mouvements et la rythmique sur la musique, là, c'est hyper agréable, quoi.
Donc, une musique de rap peut aussi très bien marcher pour de la hoop dance, finalement.
Ah oui, totalement. Vraiment tous les styles de musique, on peut vraiment y mettre l'émotion et l'énergie qu'on souhaite. Et c'est possible des exercices d'avoir, par exemple, le même enchaînement, la même chorégraphie et d'essayer sur des styles de musique différents. Et c'est quelque chose, enfin, c'est un exercice qui est assez drôle à faire. Et voilà, donc vraiment tout type de musique peut être bienvenu avec la hoop dance.
Et pour parler un peu plus de votre événement de Satni 7 mai, donc c'est un cours, un stage découverte de 13h, de 10h à 13h, pardon. Comment est-ce que ça va se dérouler ?
Alors, moi, en fait, je ramène tout un lot de cerceaux de différentes tailles. Ce qu'il faut savoir qu'en fonction de son gabarit, de sa taille et de son tour de taille, on va être plus ou moins à l'aise avec différents cerceaux. Donc, je ramène tout un lot de cerceaux pour que chaque personne puisse en trouver un à son goût. Et pendant les stages comme ça, on commence toujours par un échauffement pour mettre le corps en mouvement et puis se préparer à voilà être dans la créativité et à bouger. Et ensuite, souvent, quand il y a un petit groupe de personnes, on fait des petits exercices déjà avec le cerceau, mais qui aident un petit peu à briser la glace, se rencontrer, etc. Parce que le fait d'avoir une connexion de groupe, ça donne vraiment plein d'énergie à la pratique et à l'apprentissage des mouvements. Et après, on va découvrir ensemble plusieurs mouvements débutants, en fait. Donc, il y a le cerceau à la taille qu'on fait, mais aussi avec les mains. Et ensuite, ben, en fonction de la dynamique du groupe et des idées du jour, on va apprendre entre 5 et 10 mouvements en fonction de comment ça avance et avec des petites variations à chaque fois. Et puis, souvent, on termine avec avec des jeux. On peut aussi faire des chorégraphies. Alors, pas tant pour le fait de vraiment danser sur une musique, mais pour voir comment on lit les mouvements les uns aux autres. Parce que les mouvements vont avoir des plans. Certains vont être sur un plan vertical, d'autres horizontal, etc. Et donc, pour découvrir comment on passe d'un mouvement à un autre, on fait ça. Et puis, en général, je laisse aussi un temps de pratique libre. Voilà, avec de la musique sur quelques chansons pour que les gens puissent s'entraîner, me reposer des questions éventuellement, si jamais ils ont envie de découvrir d'autres mouvements qu'ils ont déjà pu voir, par exemple. C'est aussi le moment de les apprendre ensemble. Et voilà, donc c'est des mouvements qui sont, enfin, des moments qui sont assez riches. Et ce que je souhaite vraiment, c'est que ce soit des moments de bonne humeur, qui soient safe pour tout le monde. Et peu importe. Enfin, l'idée, c'est vraiment que ce soit accessible à tous, que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà quelques bases, que tout le monde passe un bon moment et que vous puissiez rentrer chez vous après avec l'envie de faire du cerceau et déjà quelques bases pour pouvoir vous amuser, quoi.
Et est-ce que ça marche même pour ceux qui savent pas du tout bouger leur bassin? On peut tenter quand même ou...
Oui, tout à fait. Alors, faut savoir en plus que le mouvement du cerceau à la taille, c'est le plus connu, mais c'est pas le plus facile. Et donc, il faut tout de suite s'habituer au bruit du cerceau qui tombe. C'est pas parce que on fait un cours qu'on y arrive tout de suite. C'est vraiment une histoire de pratique. Mais en tout cas, il y a tellement de mouvements différents que même s'il y en a un qu'on n'arrive pas à faire, ben, on pourra toujours en trouver d'autres avec lesquels on s'éclatera et on pourra quand même s'exprimer. Donc, pas de souci. Il n'y a pas besoin d'être ni très souple, ni d'avoir une taille de guêpe, ni d'avoir déjà essayé. C'est vraiment pour tout le monde et pour découvrir dans la bonne humeur.
Et vous parlez de connexion de groupe. Est-ce que ces stages créent des moments aussi d'échange dans la danse entre les participants?
Oui. Oui, parce qu'en plus, le fait d'apprendre en groupe comme ça, ça fait que les gens vont vraiment, vont aussi échanger les uns avec les autres, pouvoir se donner des conseils. Se montrer des petites variations, etc. Des fois, essayer ensemble de refaire la chorégraphie. Et ça peut arriver aussi que les gens s'échangent les contacts, en fait, et se retrouvent même après les stages, par exemple, au parc, pour faire des jams, on appelle ça. Et voilà, se retrouver en extérieur pour pratiquer ensemble et se montrer les nouvelles choses, etc. Et c'est aussi... Une des choses que j'aimerais développer avec l'association, c'est pouvoir avoir une sorte de communauté de hoopers et de hoopeuses pour qu'il n'y ait pas que les cours, mais que les gens puissent aussi se retrouver et profiter ensemble.
C'est marrant d'employer ce terme jam qui fait plutôt référence aux impro musicales. Ça redonne un peu le truc de spontanéité d'impro.
Tout à fait.
Et c'est pas votre premier stage de hoop. Vous donnez aussi des cours hebdomadaires avec votre association de la Mangousse électrique à Saint-Georges-Butte-Avant. Quel retour est-ce que vous avez eu de vos élèves?
Eh bien, alors les cours, ils ont commencé en janvier, donc ça fait 4 mois. Et pour l'instant, c'est que du positif, j'ai l'impression. Ça reste un petit groupe pour l'instant parce que on est en Mayenne et il faut aussi le temps que le bouche à oreille se fasse. Mais en tout cas, c'est vraiment l'ambiance que j'avais envie d'avoir en créant l'association et en lançant les cours, où il y a vraiment une ambiance amicale, en fait. On n'est que des femmes pour l'instant. On est toutes contentes de se retrouver et d'apprendre de nouvelles choses. Et on rigole beaucoup, c'est détendu. Il n'y a pas de pression. Chaque personne fait vraiment en fonction de son état du jour et de l'état de son corps aussi au moment venu. Et du coup, c'est vraiment des moments très agréables. Et je suis vraiment contente de pouvoir étoffer aussi les occasions de partager la hoop dance avec d'autres personnes parce que c'est très enrichissant.
On le comprend vite, là, c'est beaucoup aussi question de joie, de partage, de bonne humeur avec cette pratique, donc c'est chouette. Et pour clore l'interview, je me demandais si vous aviez une figure en tête d'une artiste ou d'un artiste dans la hoop dance qui vous inspire?
Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs. Et en plus, je reviens juste d'un week-end de convention de hoop dance à Paris. Donc, il y avait vraiment plein de monde de France et d'Europe. Et j'ai eu la chance de faire un workshop avec une femme allemande qui s'appelle Christine Lahoop, qui se trouve notamment sur Instagram, et qui est vraiment dans l'exploration du corps, des mouvements, du mime. Pas forcément que dans la recherche du beau, de l'esthétique, mais aussi de plein de mouvements. Il faut vraiment aller voir. Et du coup, elle nous a fait voilà, deux ateliers sur le week-end et c'était, comment dire, ça déconstruisait aussi une certaine image de la hoop dance où voilà, il faut être joli, il faut être fluide, etc. Elle avait vraiment une autre approche qui était très intéressante. Donc, voilà, Christine Lahoop sur Instagram à découvrir et je recommande. Et il y a aussi vraiment plein de monde en France. Il y a des noms comme Lagatoun qui est à Toulouse, Rosita Boom Boom qui est à Rouen, si je ne dis pas de bêtises, et Lila Choupaoub qui est à Paris. Enfin, il y a vraiment de belles références de dance en France aussi.
Du coup, c'est plus que de la danse, c'est aussi presque un jeu d'acteur en plus qui se développe.
Absolument, oui.
Ben, merci beaucoup, Jeanne Rosier, de nous avoir partagé votre passion de la hoop dance. Vous êtes professeure et performeuse de hula hoop au sein de l'asso La Mangouste Électrique. Pour tous les intéressés, je rappelle que le prochain stage a lieu samedi 7 mai de 10h à 13h au PAD, 3 boulevard David Danger. Côté inscription, vous pouvez contacter la Mangouste Électrique par mail à l'adresse mangouste.electrique@gmx.fr. N'hésitez pas à faire aussi un tour sur leurs réseaux sociaux, @lamangousteelectrique.
¿De dónde es que yo que vengo?
¿A dónde es que yo me voy?
¿De dónde es que yo que vengo?
¿A dónde es que yo me voy?
Pregúntale a la ventana,
¿a qué hora aparece el sol?
Pregúntale a la mañana,
mejor le pregunto yo.
Il est 18h26 et c'était Barreto de Perdido avec Chungo que vous venez d'écouter sur le 103 FM. On est toujours en pleine navigation avec notre optimiste sur Radio Campus Angers et nos bonnes ondes qui s'associent comme toutes les semaines aux ondes de la FRAP, la Fédération des radios associatives Un Pays de la Loire, pour la série de reportages Pensée locale. Nous amarrons cette fois-ci à Beaujois-Vallée où Michel Boutroux de RPS FM est parti découvrir l'association Acheter un Beaujois-Vallée. C'est une plateforme de commerce en ligne qui apporte des actions mutualisées aux commerçants de proximité. Il a rencontré là-bas Jean-François Coulérier, président de LOCAB, qui gère la plateforme.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
J'ai le plaisir d'accueillir à notre micro Monsieur Coulérier, qui est président de l'Office de commerce et de l'artisanat du Beaujois-Vallée. Cette structure gère le site acheterenbeaujoisvallée.fr. Ce projet du site marchand, il a été initié il y a déjà pas mal de temps, c'était en 2015. Et à cette époque, l'enjeu de consommer local était déjà un enjeu de société.
Mon prédécesseur, Monsieur Alhomme, avait par anticipation et je pense que c'était une riche anticipation hein, dans les événements qu'on vient de connaître, justement où la volonté que les commerçants, les artisans, les acteurs économiques locaux s'engagent dans une version numérique de leur activité commerciale et par justement la diffusion et la mise en avant d'une plateforme qui va apporter de la visibilité aux commerçants et artisans pour qu'ils puissent inciter les consommateurs, non pas à venir exclusivement sur leur boutique numérique, mais au contraire de faire venir dans leur boutique physique traditionnelle. C'était à l'initiative d'ailleurs acheterenbeaujoisvallée.fr et partenaire de la plateforme Achetea, qui est une plateforme nationale dont le premier créateur est au Puy-en-Velay, et Beaujais à l'époque était exclusivement Beaujais, faisait partie des trois plateformes françaises, et donc la troisième plateforme française après le Puy-en-Velay. Les partenaires, ce sont les commerçants, les artisans, les producteurs locaux, les entreprises, et même plus largement aujourd'hui, on va dire aussi les associations, etc. Mais dans l'origine, on est bien sur le commerce et l'artisanat de proximité, donc ce sont eux les premiers partenaires de l'OKBV acheterenbeaujoisvallée.fr. La réaction, elle est bien sûr positive, puisque l'intérêt, c'est dans l'objectif exclusif de promouvoir le commerce et leurs activités locales. Donc évidemment, ils sont intéressés. À partir de là, il faut se dire qu'il faut un certain temps avant que l'intégration de cette nouvelle forme de communication et de cette nouvelle activité puisse être prise en compte par les commerçants et les artisans eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains freins. Notre boutique ne va plus exister. Non, au contraire, l'intérêt c'est de susciter l'intérêt du consommateur via la plateforme pour apporter justement une visibilité et de faire venir les clients consommateurs du territoire, les faire venir sur leur boutique traditionnelle. Donc on est bien dans un esprit de complémentarité. Donc à partir du moment où le commerçant, l'adhérent a bien intégré, compris cette notion et de visibilité et de complémentarité, eh bien ça se passe très bien et les gens, il n'y a pas de déception. Au contraire, hein, on a aujourd'hui plus de 100 commerces et entreprises qui sont adhérentes à la plateforme. On espère dans les mois et les années à venir largement pouvoir doubler cette nombre d'adhérents. Donc ça veut dire que ça répond bien à une attente et à une volonté. La volonté du consommateur d'aller chercher de la proximité, d'aller acheter local et consommer local. Et c'est bien dans cet esprit que la plateforme s'inscrit.
Pensée locale, un enjeu de société.
La préoccupation, c'est que l'argent reste sur la région.
Évidemment, c'est même le premier intérêt, hein, c'est de pouvoir justement à ce que la consommation locale se concentre en majorité sur le territoire et le territoire communautaire. Hein. La volonté, c'est ça, c'est bien d'acheter et de consommer local. Alors je dis bien acheter et consommer. C'est bien pour ça que les achats ne sont pas ouverts qu'à des producteurs locaux, mais la volonté, elle est bien d'aller aussi acheter. Donc acheter, ça veut dire acheter, c'est son boulanger, acheter, c'est son épicier, métier. On est achat et consommation locale. Mais ça va être aussi les aspects culturels, puisque ça existe déjà, à la fois sur le Noyant et sur Baugé, où la politique culturelle de la ville souhaite, via cet outil numérique, pouvoir offrir la billetterie directement en ligne. Pour l'année 2021, on a franchi le seuil des 60 000 connexions annuelles sur le site, et c'est donc quelque chose qui n'avait jamais été atteint. On espère que sur 2022, nous pourrons tutoyer les 100 000, alors tout au moins dépasser largement les 60 000, ce qui correspond déjà à une reconnaissance, une visibilité.
On rappelle le nom du site.
Alors c'est acheterenbaugeoisvallée.fr.
RPS FM, Michel Boutreux.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
De retour dans l'Optimiste, votre rendez-vous d'actualité locale du 103 FM. Et c'est le moment de la capsule positive d'Anne-Lise. Aujourd'hui, elle nous aide à apaiser notre fatigue mentale. Ce sont donc des conseils très pertinents pour un lundi soir. On les écoute tout de suite.
Bon matin, je suis Anne-Lise et avec Radio Campus, nous vous proposons, comme chaque lundi, un petit moment positif pour soi, pour se faire du bien. Aujourd'hui, je m'adresse aux étudiants qui préparent ardemment leurs examens et à tous ceux qui bossent actuellement dur pour réussir un concours, un test, un dossier à rendre. Et puis nous tous qui travaillons, car la fatigue mentale est incontournable.
Here we go!
Après plusieurs heures de travail, avez-vous déjà relu plusieurs fois une même phrase sans en comprendre le sens? Avez-vous parfois le sentiment que vous avancez plus lentement quand vous travaillez depuis un long moment? Cette baisse d'efficacité est naturelle. Avec le temps, une fatigue mentale s'installe et c'est tout le cerveau qui est impacté. C'est comme la fatigue physique en fait. On se remet de cette fatigue grâce à une période de récupération. Et bien notre cerveau a aussi besoin de pause pour récupérer et pouvoir fournir à nouveau des efforts. Cela ne vous viendrait pas à l'esprit de continuer un travail qui vous a fatigué physiquement. Alors pourquoi faire cela avec votre cerveau? Eh oui, il convient de constater que les comportements de pause quand on travaille ne sont pas toujours top top, ce qui permet la fatigue mentale de s'installer. Pourquoi faut-il favoriser les pauses quand on travaille? Et puis, qu'est-ce qu'une bonne pause? Les résultats de la recherche en sciences cognitives nous permettent de mieux définir la fatigue mentale et ses conséquences et comprendre comment s'en prémunir. La fatigue mentale, c'est quoi exactement? Eh bien, elle se définit en fait principalement par ses conséquences. D'abord, une incapacité à atteindre ou maintenir une performance maximale à la suite d'une activité mentale prolongée. Et puis, la mobilisation de nos ressources mentales sur un temps long, pouvant aller de quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes selon l'activité, et qui entraîne un changement dans le fonctionnement du cerveau qui se manifeste par une transformation de nos comportements. Tout d'abord, nos performances et capacités d'attention sont altérées. Après plusieurs heures passées sur une même activité, nous avons plus de difficultés pour détecter correctement les informations liées à cette activité, ce qui nous pousse à faire davantage d'erreurs. Par exemple, c'est ce qui explique notre surprise quand on lit un paragraphe rempli de fautes d'orthographe que l'on a écrit la veille après plusieurs heures de rédaction. Nous n'avons souvent pas conscience de la dégradation de nos performances induites par la fatigue mentale. Nos temps de réaction augmentent également, entraînant un allongement du temps nécessaire pour terminer l'activité que l'on est en train d'effectuer. De plus, le contrôle de notre propre attention diminue sous l'effet de la fatigue mentale, ce qui réduit notre capacité à faire abstraction des sollicitations extérieures et donc à se concentrer. Notre capacité à prendre des décisions s'altère avec la fatigue mentale, et notamment si l'activité en cours est intense pour le cerveau. D'après les résultats d'une étude de 2015 menée par une équipe de recherche française, la fatigue altère le fonctionnement du cortex préfrontal, qui est une zone située à l'avant de notre cerveau, juste derrière les yeux. Elle est impliquée, cette zone, notamment dans le contrôle de soi et des comportements. Une autre équipe de recherche a montré que c'est le fonctionnement général du cerveau qui serait altéré sous l'effet de la fatigue mentale. Toutes les zones de notre cerveau s'activeraient en fait moins bien et moins intensément avec le temps passé sur une activité mentale intense, et notre cerveau se mettrait dans un état proche de celui dans lequel il entre quand nous dormons. La fatigue mentale a ainsi de nombreux effets négatifs sur notre cerveau et son fonctionnement. Il est donc essentiel de limiter au maximum son accumulation, surtout quand on travaille, pour conserver l'efficacité et le bien-être tout au long de la journée.